Bonjour tout le monde, ça va bien? Voir que ça finisse la neige. Tournez avec moi s'il vous plaît dans Romains, dans vos Bibles, dans l'Épître aux Romains, la lettre aux Romains, chapitre 6. Mais Stéphane va nous lire chapitre 7. C'est bon? Simplement pour se mettre en contexte, d'accord? La lettre aux Romains demande de suivre le fil de la pensée de Paul constamment, puisqu'il construit. C'est vraiment une somme, une sommité en termes d'argumentaire, la lettre aux Romains, et saisir le raisonnement, le fil conducteur est super important. Alors, juste pour se replacer dans le contexte de Romains 6, 7 et 8, ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière avec Miguel, on entre dans une nouvelle partie de la lettre aux Romains et Paul a terminé avec la fin du chapitre 5 de faire la démonstration que l'être humain est sauvé par grâce. Le pardon que Dieu offre aux êtres humains, c'est un pardon qui est pure grâce. On ne peut pas mériter ce pardon-là, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'acquérir par une vie parfaite, on ne peut pas se mériter une grâce, c'est une grâce. Donc, c'est un cadeau que Dieu fait, qui est saisi simplement par la foi. Et Paul défend bien cela, explique bien dans les chapitres 1 à 3, jusqu'à la fin du chapitre 3, que chaque être humain sur la terre, s'il doit être en paix avec Dieu, s'il doit être près de Dieu, s'il doit être réconcilié avec Dieu, c'est premièrement parce qu'on est tous pécheurs. Et qu'en ceci, tous les êtres humains sont égaux. On est tous pécheurs profondément, qu'on soit religieux ou non, qu'on soit attiré par le christianisme ou non, qu'on soit dans quelque religion dans le monde, tous les êtres humains sont pécheurs. Et ensuite de ça, ce que Paul va démontrer, c'est que s'il y a une réconciliation possible, justement, s'il y a un rapprochement possible avec Dieu, ça ne sera pas à force de bonnes actions qu'on va y parvenir, mais ça va être par une grâce de Dieu. Et cette grâce-là est offerte aux hommes en vertu du sacrifice que Jésus a fait en offrant sa vie sur la croix. C'est ce que Paul démontre. Lorsqu'on arrive au chapitre 6, Paul a fini de démontrer ça, puis là, Paul pose une question. Parce qu'il veut adresser peut-être une mauvaise compréhension de ce message, cette bonne nouvelle, cet évangile. Il dit, bon, certains diront, puisque Dieu pardonne par pure grâce, puisque Dieu pardonne dès qu'il y a demande de pardon, party time! Écoute, Dieu pardonne. Je vais aller en virer une solide, une bonne brosse. Dieu pardonne tout. Je vais aller me faire une banque, tu sais, pour préparer mes vacances. Dieu pardonne tout. Puisque la grâce abonde, est-ce que le péché pourrait pas surabonder? Pourquoi pas? Et là, on rentre dans cette nouvelle section-là où Paul est en train de nous dire, non, si c'est comme ça que vous comprenez l'Évangile, en fait, vous ne l'avez pas compris du tout. C'est vrai. C'est vrai que Dieu pardonne par grâce. C'est vrai que Dieu pardonne en vertu, non pas de ce qu'on fait, mais simplement de notre foi en Jésus-Christ, dans son œuvre à lui, pas dans notre œuvre à nous. C'est vrai. Mais Dieu pardonne avec un but bien précis. Dieu pardonne afin qu'on soit réconcilié avec lui. Dieu pardonne afin qu'on puisse entrer dans sa présence, parce que c'est notre Créateur après tout. Dieu pardonne enfin, afin que nous soyons libres de devenir tout ce que l'être humain est appelé à devenir. Dieu a créé l'homme comme une créature merveilleuse, une créature noble qui est appelée à faire de grandes et belles choses. Et si Dieu pardonne, c'est pour que nous soyons libérés. Libérés de l'esclavage du péché qui nous rend tellement petits. Tellement, si c'est la première fois que vous m'entendez, vous allez savoir que je dis les choses des fois crûment, tellement con et minable. Dieu ne nous a pas libérés du péché pour qu'on soit libre d'être con. Dieu nous a libérés du péché pour qu'on soit libre d'être grand, beau, noble, qu'on puisse embrasser cette sainteté, cette beauté, cette charité, cette générosité qu'il y a en Dieu. Et c'est ça que Paul développe dans le chapitre 6. Et puis on arrive à un verset super important au chapitre 6. Vous allez voir dans la suite de l'exposé tout à l'heure pourquoi je veux commencer là, avant d'aller dans le chapitre 7. Romains 6, verset 14. Paul dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble dans le chapitre 7, c'est qu'est-ce que la loi a à voir dans cette puissance que le péché a sur l'être humain. On va prier ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. Père éternel, ta parole te révèle à nous. On découvre en lisant les Saintes Écritures que tu es un être merveilleux, tu es un être grand, juste, saint, bon. Tu es la bonté, tu es l'amour même, tu es la beauté même, parce que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est noble se trouve en toi, vient de toi, origine de toi, Seigneur. On apprend dans ta parole, Seigneur, que tu es venu nous libérer, Seigneur Jésus, du pouvoir du péché, afin que nous puissions être réconciliés avec toi, réconciliés avec notre nature profonde comme créature de Dieu. Et voilà, Seigneur, lorsqu'on lit tes Écritures, lorsqu'on découvre la loi qui est bonne, qui est sainte, Seigneur, elle nous apparaît insupportable. Viens nous éclairer ce matin. Viens nous aider, Seigneur, à comprendre quel est notre rapport à nous comme chrétiens avec ta loi qui est sainte et parfaite, Seigneur, afin que nous puissions être libres. Libres, Seigneur, d'être comme toi, remplis de ton esprit à ta ressemblance. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors, comme Yannick l'a mentionné, on va tourner ensemble dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Et je vais vous lire dans l'édition Louis II. Alors, Romains, chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché.
Merci Stéphane. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? OK, j'en ai une dizaine avec moi. J'ai une question pour vous, qui, je pense, éclaire beaucoup ce passage-là. Pourquoi est-ce que les gens embarquent dans des religions? Pense à ça. Pourquoi est-ce que les gens embarquent dans une religion? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes ici comme des observateurs extérieurs, puis vous regardez les chrétiens, vous regardez ce phénomène-là. Tu peux venir d'une famille chrétienne, puis être à cet endroit-là où tu dis, bon, c'est intéressant, c'est ce qu'on m'a enseigné, je veux comprendre ce phénomène-là, puis je veux voir si moi j'y crois. Pourquoi est-ce que les gens embarquent dans une religion? Je crois que les gens embarquent généralement dans une religion parce qu'ils cherchent la liberté. Parce qu'ils cherchent à être libres. Puis tu ne peux pas comprendre le phénomène religieux si tu ne saisis pas cela. Quelles que soient les religions. Tu vas regarder ça à l'extérieur et tu vas dire, non, mais attends un petit peu, là, les gens embarquent dans une religion pas pour être libres, ils s'en vont se mettre sous un paquet de commandements, de directives, de cadres, de carcans, fais ci, fais pas ça, ça c'est bien, ça c'est mal, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est pas la liberté comme moi je la définis. Et les gens qui comprennent pas le phénomène religieux saisissent pas que les gens embarquent dans une religion, parce que dans le fond, ils cherchent la liberté. Par exemple, je pense que lorsqu'une personne embarque dans une religion, elle cherche la liberté peut-être parce qu'elle veut être libérée de sa conscience. Elle a des choses sur la conscience, c'est lourd à porter, et ce cadre religieux-là, cette pensée-là, lui offre un système qui va la soulager de ça. Ils veulent être libérés de leur dépendance. Plus confiance en eux-mêmes pour sortir de ça, adhèrent à une religion pour être libérés de leur dépendance. Ils veulent être libérés de la souffrance qu'ils portent en eux-mêmes, qui peut avoir toutes sortes de causes, toutes sortes d'origines, souffrance qui est infligée par des gens, souffrance physique, souffrance qui portent en eux-mêmes. Ils veulent être aimés ou acceptés. Ils cherchent cette liberté de sentir qu'ils sont aimés, que leur vie a un sens. Ils veulent être libres d'espérer. Et je crois qu'en général, les gens qui embarquent dans une religion parce qu'ils cherchent la liberté. Sous différentes formes, pour différentes raisons, avec des besoins et ressentis particuliers. Mais la liberté, ne se trouve pas exactement où l'on pense. Ce matin, on va voir ensemble que la loi de Dieu qu'on trouve dans la parole, lorsqu'on commence à chercher le Dieu de la Bible, on rencontre la loi de Dieu. Les préceptes, les principes, la vision du monde que Dieu propose où il trace la ligne entre le bien et le mal. On va voir ensemble que la loi de Dieu est parfaite. Mais nous sommes profondément incapables de l'honorer. Celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ appartient maintenant à Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ qu'il approche Dieu, non par la loi. Non par la loi. Voyez-vous, lorsqu'on commence à chercher Dieu, puis on commence à, pour plusieurs, lorsqu'ils commencent à chercher à travers le christianisme, et du temps de Paul, plusieurs païens qui étaient des non-juifs, qui n'étaient pas de culture ou d'origine juive, commençaient à chercher le Dieu monothéiste des Juifs, allaient vers l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait que l'Ancien Testament à l'époque. Et puis on commence à lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on commence à chercher le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, on rencontre inévitablement, premièrement, la loi. Puis là, on commence à lire et à découvrir la Bible, puis découvrir que Dieu nous aide à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, être bon les uns envers les autres, partager, être honnête, être intègre, être humble, ne pas prétendre être plus que ce que l'on est, reconnaître nos torts, demander pardon, discerner le bien moral. Intéressant, cette semaine, il est arrivé un scandale au Québec, et puis... dans une société post-chrétienne, il y a un jugement moral sévère qui a été prononcé. Sur les médias sociaux, c'était évident. Un jugement moral qui a été prononcé. Donc c'est là en nous, Paul nous dit au début de la lettre aux Romains que l'être humain fondamentalement connaît Dieu puis décide ou non de chercher Dieu. Mais lorsqu'on commence à lire la Bible, alors on découvre la loi de Dieu dans toute sa beauté, dans toute sa perfection, qui englobe vraiment tous les aspects de la vie. Puis on commence à comprendre pourquoi l'être humain a été créé, à quoi on est appelé, quelle noblesse, quelle grandeur il y a, et à quoi on est appelé. Puis la loi de Dieu, les préceptes de Dieu viennent aiguiser notre conscience. Et on découvre que la loi de Dieu est parfaite. Je l'ai dit comme ça, la loi de Dieu est parfaitement parfaite. Mais une des premières choses que tu réalises lorsque tu commences à lire la Bible, c'est qu'il y a un problème avec moi, un problème avec toi. Parce que la loi de Dieu est parfaite, mais nous, voyez-vous, la loi qu'on trouve dans les Écritures, tous les préceptes, tous les endroits où il y a un discernement qui nous est donné, tout ceci reflète la personne de Dieu. Si Dieu est Dieu, si Dieu existe, Dieu est parfait. Autrement, il n'y a pas Dieu. Dieu est la vertu même, comme je disais tout à l'heure dans ma prière. Dieu est l'amour même, Dieu est la sainteté même. Et donc, la loi est là pour nous faire connaître Dieu, nous parle de ses vertus, ses qualités, de la même manière que lorsque tu élèves tes enfants, tu as des principes dans la maison, puis tu dis, regarde entre les enfants, ils commencent à chicaner, c'est pas comme ça que je veux vous élever, c'est pas cette manière-là, c'est pas ces relations-là, il va y avoir des règles dans la maison qui reflètent mes valeurs, parce que je veux vous les communiquer, ce sont de bonnes valeurs, c'est ça la loi de Dieu. Ainsi, la loi de Dieu que je trouve dans les Saintes Écritures reflète la personne de Dieu. Elle est parfaite. Mais la loi de Dieu expose parfaitement notre nature pécheresse. Et à celui qui cherche Dieu en lisant les Écritures puis qui découvre progressivement la loi de Dieu, inévitablement, il y a un fardeau qui commence à se déposer sur nos épaules. Parce que cette loi qui est parfaite, qui reflète parfaitement la personne de Dieu, expose aussi complètement, profondément, notre nature pécheresse. Et c'est ça que Paul est en train de dire ici. Lorsqu'il dit que la loi est un pédagogue, est un enseignant, c'est que la loi est un révélateur. La loi de Dieu expose parfaitement notre nature profonde, qui est une nature pécheresse. Elle met en lumière une contradiction interne qu'il y a dans chaque être humain, qui est là. Paul dit au verset 7 et 8, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? » Parce que la loi devient une espèce de tentation constante à pécher. Il dit loin de là, « Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, « Tu ne convoiteras point le péché, saisissant l'occasion, et le péché saisissant l'occasion produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. » Ainsi, la loi de Dieu est un pédagogue. Si tu as été élevé dans une famille chrétienne, puis ce que tu as retenu des histoires bibliques, c'est tout ce qu'il faut faire puis pas faire, tu dois détester le christianisme. Tu dois détester. Dans le fond de toi, là, tu dois détester le christianisme. Si c'est ça que tu as saisi, essentiellement, si c'est ça que tu as retenu des histoires bibliques ou de l'Ancien Testament ou des 10 commandements, dans le fond de toi-même, il doit y avoir une espèce de conflit intérieur qui dit c'est bien beau, c'est bien cute, mais c'est invivable cette affaire-là. Je crois personnellement, il y a des grandes discussions sur le chapitre 7, OK? Puis ce matin, je vais pas m'étirer beaucoup. Ça se ferait plus dans le cadre d'un cours biblique pour faire vraiment l'exégèse assez étendue de Romains 7. Mais il y a des grandes discussions à savoir. Lorsque Paul commence à raconter cette histoire-là, de qui il parle? Est-ce qu'il parle de son expérience à lui? Est-ce que plus loin, il va parler au présent puis il va dire, mais voici, il y a en moi cette lutte-là qui est là. Est-ce qu'il est en train de parler de lui comme chrétien qui vit encore ces luttes-là? De quoi il parle? Je vous donne ma vision des choses, OK? Vous avez le droit ce matin d'être en désaccord avec moi puisque je suis en désaccord avec Jean Calvin puis Martin Luther. Pas pire, hein? Mais c'est simplement pour dire que c'est difficile de discerner ce qu'il y en est. Et les théologiens sont d'un côté et de l'autre. Augustin, peut-être que vous connaissez sous le nom de Saint-Augustin, lui-même a changé de position de son vivant. Au début, il avait la mienne, puis après ça, je ne sais pas pourquoi il l'a quitté. Je n'étais pas là pour prendre un café avec lui, il faut croire. Mais je suis humble, n'en doutez point. Je crois que ce que Paul est en train de faire ici, c'est qu'il raconte en gros l'histoire, je vais le prendre comme ça, l'histoire d'Israël qui est sauvé et à qui Dieu donne la loi. Puis le peuple d'Israël reçoit la loi et dans tout l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? La loi démontre qu'Israël est tout croche. En gros, c'est ça. La loi est une espèce de pédagogue partout dans l'Ancien Testament qui nous montre qu'Israël n'est pas capable, même si Israël a été sauvé par grâce d'Égypte, hein, ils ont été libérés de leur esclavage, Dieu les conduit au désert, il leur donne les 10 commandements, il leur donne la loi. Tout le reste de l'Ancien Testament fait la démonstration qu'Israël est assez poche, merci, incapable d'honorer cette loi-là. Alors, dans un sens, je crois aussi que Paul est en train de raconter l'histoire de toute personne qui cherche Dieu, puis qui à un moment donné découvre la loi de Dieu, découvre ce Dieu-là de la Bible qui est bon, qui est juste, qui est saint, et qui progressivement découvre cette espèce de conflit intérieur qui est en lui. Ma compréhension à moi, là, c'est qu'à la fin, lorsqu'il parle au présent, il ne parle pas premièrement des chrétiens. Je ne pense pas qu'il parle de l'expérience quotidienne des chrétiens. Je crois qu'on arrive à la fin du chapitre 7 et il parle de la conversion. Maintenant, je pense que chaque fois qu'un chrétien essaie de s'approcher de Dieu simplement en obéissant à la loi, il retourne exactement au même endroit, avec les mêmes combats intérieurs. Alors, restez avec moi. Celui qui cherche à atteindre Dieu par la loi n'atteint rien du tout. Celui qui cherche à atteindre Dieu par la loi n'atteint rien du tout. Et à peu près toutes les religions, sans avoir nécessairement la révélation biblique, d'accord? À peu près toutes les religions et tous les hommes tentent d'atteindre Dieu par la loi, ne serait-ce que par une certaine conscience du bien et du mal. Ça a été vrai pour Israël. Israël est sauvé d'Égypte, Israël est conduit au désert, Dieu leur donne la loi, et puis Israël essaie, veut avoir la prétention d'être ce peuple qui est digne de ce nom-là. Et Dieu merci, il y avait tout le système sacrificiel qui était là. Système de grâce qui annonçait hein, le sacrifice de Jésus qui allait venir. Mais qu'est-ce qu'Israël a démontré? C'est que tu n'atteins pas Dieu si tu essaies de le rejoindre, de te rendre à lui par la loi. Ceux qui cherchent Dieu et qui commencent à lire la Bible, et puis qui voient tous les préceptes qui sont là, qui sont sages, tout ça, puis qui disent, « OK, je vais embarquer là-dedans, je vais devenir un chrétien, je vais embarquer dans ce système-là, j'ai du discernement maintenant, les Écritures m'éclairent. » Se rendent nulle part. parce qu'ils ne réussissent pas à atteindre Dieu. Parce que la loi les condamne constamment. Je crois que tout bon chrétien fait ça souvent aussi. Ça ne va pas dans ma vie chrétienne, il y a des choses qui ne vont pas bien. Je lis les Écritures, je lis la Bible. La Bible me juge. Ma conscience m'accuse parce que je lis les Écritures puis je vois bien qu'il y a des affaires qui ne vont pas dans ma vie. Puis j'ai un jugement qui vient vers moi. Je me dis, je me ressaisis. OK, je vais faire mieux. Tout bon chrétien fait ça, non? Il y a des moments où on fait ça. Ça vous mène où? Vous vous couchez 3-4 soirs en ligne puis vous dites, oh! « Oh, mais ça s'en vient. M'en vient bon. Perfection, presque rendue. » Tout bon chrétien fait ça aussi. Celui qui cherche à atteindre Dieu par la loi n'atteint absolument rien du tout. Et à peu près toutes les religions font ça d'une manière ou d'une autre. Les hommes font ça. Israël l'a essayé, ça n'a pas fonctionné. Ceux qui cherchent Dieu en lisant les Écritures l'essaient, ça ne fonctionne pas. Les bons chrétiens ont fait ça par moment. La loi de Dieu nous laisse sans force. Tantôt, j'ai dit qu'elle était sainte, parfaite. La loi de Dieu nous laisse sans force, découragés de nous-mêmes et condamnables. C'est ça qu'elle fait. Parce que c'est ça sa fonction, entre autres. Sa fonction, c'est d'exposer notre nature profonde. Paul dit au verset 21-23, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Ainsi, le commandement au verset 10 qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Celui qui cherche à s'approcher de Dieu, à atteindre Dieu par la loi, sort toujours de cet exercice-là découragé de lui-même, condamné dans son cœur, condamnable. Et c'est vrai si tu es en train de chercher Dieu. Je te mets en garde, tu vas être tenté d'arrêter de lire les Écritures. Pas parce qu'il y a des guerres, puis il y a des choses qui te scandalisent, puis que tu ne comprends pas. Non, en même temps, il y a cette perfection qui est là dans la Bible. Tu lis les paroles de Jésus, tu te dis, wow, il est comme hors norme celui-là. Puis là, tu cherches, puis tout ça. Mais il va y avoir un fardeau qui va se déposer sur tes épaules, qui va devenir insupportable si tu cherches à atteindre Dieu à travers la loi. Tu as été élevé dans une famille chrétienne. Tu as été élevé dans une famille chrétienne, puis tu connais ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pratiquement intuitif chez toi parce qu'on t'a enseigné la loi, la parole de Dieu depuis ton enfance. Intuitivement, tu discernes le bien et le mal. Pratiquement tout le temps. Si ton rapport à Dieu, c'est ce rapport-là de discernement du bien et du mal, puis que tu essaies d'être un bon chrétien, tu t'appliques à essayer d'être un bon chrétien, tu es vraiment mal pris parce que ça n'existe pas un bon chrétien. Ça n'existe pas. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas bon. Tu comprends? Fait que si ton rapport par rapport au christianisme, tu as été élevé là-dedans depuis ton enfance, c'est de dire, moi, je vais réussir à être un bon chrétien. Quand je vais être un bon chrétien, je vais aller me faire baptiser. Man, tu n'as rien compris. On baptise juste ceux qui savent qu'ils sont poches. C'est tout. Fait que si tu attends de te rendre là, on ne te baptisera jamais. Parce qu'il va voir, tu dis, I'm a loser. Ah, peut-être qu'on va considérer de te baptiser. Parce que peut-être que tu as compris l'Évangile. Maintenant, tu es chrétien de longue date. Je dis, OK, l'Évangile m'a sauvé, alléluia, Jésus m'a tout pardonné, mais quand même, il faut que ça change cette affaire-là. Il faut à quelque part que j'arrive quelque part, puis que ça commence à démontrer un changement dans ma vie. Là, tu lis les Écritures, parce que c'est important de lire les Écritures, puis tu es confronté à tous ces endroits-là où tu n'arrives pas à être sur la coche, puis là, tu portes cette culpabilité-là, puis tu dis, bon, ben, je vais essayer plus. Cette loi-là devrait être facile à vivre pour moi. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Même comme chrétien, je ne peux pas chercher Dieu à travers la loi. Celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ n'appartient plus à la loi. Il appartient à Jésus-Christ. Regardez bien le verset 4. Qu'est-ce que Paul dit? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Il fait référence au sacrifice de Jésus sur la croix. Et il fait référence, parce qu'il l'a exposé au chapitre 6, à notre baptême. Lorsqu'un chrétien se fait baptiser, il ne le fait pas quand il est bébé. Je suis désolé, tu ne peux pas devenir chrétien en étant bébé parce que tu dois embrasser la foi toi-même. Ça, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'un chrétien se fait baptiser, qu'est-ce qu'il fait? Tel que ça se faisait à l'époque, ça se fait par immersion. Il est immergé, il est plongé dans l'eau. On va avoir des baptêmes à Pâques. Si vous n'avez jamais vu des baptêmes chrétiens, soyez ici, venez assister à ça. Ça va ouvrir vos yeux sur le sens véritable de l'Évangile. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le chrétien est en train de dire? « I'm a loser, je suis poche, je suis pécheur, j'ai besoin de m'identifier avec la mort de Jésus-Christ parce que c'est sa mort à lui qui est juste. » C'est son sacrifice à lui qui est bon. Et le chrétien se fait baptiser pour illustrer cette association que je fais avec la mort de Jésus sur la croix. Alors Paul dit ceci. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Paul est en train de dire, celui qui est baptisé en Jésus-Christ ne répond plus à la loi, il répond à Christ. Il n'appartient plus au régime de la loi, il appartient à Christ. Celui qui a été baptisé en Jésus-Christ, qui a placé sa foi en Jésus-Christ, ne cherche jamais à atteindre Dieu par la loi. Il s'approche de Dieu par Christ. Il s'approche de Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul, Jésus est le seul qui a honoré la loi véritablement et qui est mort sur cette croix sans péché. Vous n'êtes pas familier avec le christianisme, vous dites, vous êtes une gang de malades, vous dites qu'il y en a un qui n'est pas comme les autres. Va lire les évangiles, viens me dire qu'il est pareil comme tout le monde. Mais va lire les évangiles au lieu de te fier à juste ce que tu en penses. Jésus est mort sur la croix et lui a honoré parfaitement la loi. Il est le seul qui l'a fait. Il est mort sur cette croix, il a rempli entièrement les commandements de la loi, le standard de la loi, et il a été fait péché à ma place. C'est ça qui s'est passé. Il a pris la condamnation de mon péché sur lui. Jésus-Christ a parfaitement honoré la loi, il est mort pour toi et moi. Regardez bien le début du chapitre 8, d'accord? On va être là la semaine prochaine dans le chapitre 8, mais le lien est trop fort, je suis obligé d'aller là. Romains 8, versets 1 à 4. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, par la foi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Car chose impossible à la loi. Voyez-vous, je ne peux pas lire les Écritures, puis adopter la loi, la parole de Dieu, puis dire, OK, je vais devenir de plus en plus comme Dieu, je vais devenir de plus en plus saint, je vais devenir de plus en plus juste, je vais être de plus en plus à coche. Ça ne marche pas. La loi n'est pas capable de le produire en nous, pas parce que la loi est mauvaise, la loi est parfaite, elle reflète la perfection de Dieu. Mais la loi travaille avec ce que nous sommes dans notre nature profonde. Des êtres créés à l'image de Dieu, puis en même temps profondément déchu, profondément déréglé, affecté de cette nature pécheresse-là, qui fait que la loi est incapable. Chose impossible à la loi, parce que la chair, qui est cette nature pécheresse, ailleurs Paul l'appelle le vieil homme, la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il s'est incarné, semblable, il n'était pas pécheur. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Paul a traité tout ça dans Romains 5, entre autres. Alors, vous pourrez remonter un petit peu avant si vous voulez comprendre ça. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc, ce que Paul est en train de me dire, c'est que c'est par Jésus-Christ que j'approche Dieu à présent, pas par la loi. C'est par Jésus-Christ que j'approche Dieu. Une citation de Jean Calvin. Je suis généralement d'accord avec Jean Calvin quand même. Sous la loi, Dieu rétribue la justice parfaite. Aucun d'entre nous ne se qualifie. Et au contraire, en Jésus-Christ, la face de Dieu brille, remplie de grâce et de douceur, même pour de pauvres et misérables pécheurs. Romains 7, 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. À quoi sert la loi pour le chrétien? Dans quelle mesure est-ce que la loi nous est utile? Est-ce que ça veut dire qu'on ne lit plus la loi de Dieu? Moi, je connais Jésus, je n'ai plus besoin de la Bible. La loi m'est utile dans la mesure où elle me conduit toujours à suivre Jésus-Christ. Un jour, Jésus a enseigné ses disciples et a dit que toute la loi et les prophètes parlaient de lui. Quand je lis les Écritures, quand je lis la Bible, quand je lis les psaumes, quand je lis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quand je lis les Écritures, inévitablement, la grandeur de Dieu m'est rappelée, les vertus de Dieu, la beauté de Dieu et de ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu aiguise mon discernement. Je pense à des situations à l'école, au travail, dans mes relations, rapport avec mon épouse, entre époux, avec des amis, tout ça, mon rapport au bien matériel, mon rapport à la sexualité, mon rapport à n'importe quoi, à la vie, à la mort, à la maladie. Mon discernement est aiguisé. Je commence à penser comme Dieu. Et puis, ce que Dieu dit qui est bon, qui est parfait, qui est saint à faire, je le comprends mieux, je le discerne, je le vois. Maintenant, si par moi-même, je dis, je vais répondre à ça et je vais l'atteindre, je retombe dans ce réflexe-là, d'essayer de m'approcher de Dieu par la loi. La loi m'est utile dans la mesure où elle me conduit à Christ. Alors, je lis les Écritures, j'acquiers le discernement que les Écritures me donnent, je suis en affaires, je suis au travail, j'ai discernement aiguisé par les Écritures. Je réalise qu'en moi-même, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour pouvoir honorer ça. Et encore une fois, l'Esprit me prêche l'Évangile. L'Esprit de Dieu me prêche l'Évangile encore une fois. Me rappelle que Christ seul est venu honorer cette loi-là. Christ seul a incarné comme homme ce respect parfait-là de la loi. Et Christ est venu et il est mort sur la croix à cause de mon incapacité à moi d'honorer la loi. Et à ce moment-là, alors que ma conscience a été éclairée par la loi de Dieu, j'ai vu ma difficulté, mon incapacité moi-même à honorer la loi de Dieu. Alors même que j'ai ça à l'esprit, j'ai entendu encore l'Évangile et seul Christ l'a fait. Et là, je prends une décision dans mon cœur. Ça va avoir de la théorique si vous ne saisissez pas l'Évangile. Ça fait toute la différence du monde. Je prends la décision dans mon cœur à ce moment-là, non pas de suivre la loi, mais de suivre Jésus-Christ. Je prends la décision à ce moment-là dans mon cœur, non pas de suivre la loi, mais de suivre Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que les gens embarquent dans des religions? Parce qu'ils cherchent la liberté. Liberté de conscience, liberté d'être aimé, de retrouver l'espoir, liberté de savoir comment se conduire, comment être délivré de nos dépendances. Mais dans la religion, ils cherchent un système de pensée, des règles, des préceptes qui vont faire d'eux des meilleures personnes. Ils cherchent dans la loi. Ils cherchent la liberté. La liberté ne se trouve pas dans la loi. La loi est un pédagogue qui nous montre qu'on est pécheur. La liberté se trouve dans une personne. Jésus-Christ. Et la loi nous a été donnée pour nous montrer qu'on n'est pas capable d'y arriver par nous-mêmes, mais qu'on a besoin d'une personne, Jésus-Christ, qui, lui, est venu, s'est incarné, est venu sur la terre, et lui a honoré la loi, parfaitement. Ainsi, maintenant, comme chrétien, je lis la Bible pour aiguiser mon discernement, pour adorer Dieu dans toute sa sainteté, voir comment sa pensée est belle et sainte, et juste, pour voir là où il y a des manquements dans ma vie. Et au moment où cette loi-là pourrait devenir un fardeau incroyable sur mes épaules, un jugement sur mes épaules, je me tourne vers Christ. Et je reconnais que lui seul a honoré parfaitement cette loi-là. Et là, la parole de Dieu, la loi de Dieu, devient une lumière. Une lumière qui me guide, qui m'aide à dire, OK, c'est ça que je veux être, mais seul Christ l'a fait vraiment. Seigneur Jésus, je veux être en relation avec toi. Je ne suis pas la loi, je suis une personne et je suis en relation avec cette personne-là, Jésus-Christ. C'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour toi. Si tu ne connais pas Jésus-Christ et ta conscience est en train de s'éveiller à quelque chose de plus grand que ta propre loi à toi. C'est ça que Paul nous dit au début de la lettre aux Romains, il nous dit que les hommes ont décidé d'être leur propre chef, de discerner eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'ils veulent faire de leur vie sans Dieu. Mais si tu es ici ce matin, c'est à quelque part parce que tu es en train de réfléchir à ce Dieu-là qui est peut-être extérieur à toi, qui s'est peut-être révélé, que le christianisme est peut-être finalement une proposition qui vient de Dieu, qui est vraie, puis tu t'interroges. Ma prière, c'est qu'en lisant les Écritures, tu découvres une personne beaucoup plus qu'une loi. Que tu ne t'arrêtes pas à cet endroit où la Bible devient insupportable, mais qu'au contraire, cela te conduise dans l'humilité. Pour que tu désires dans ton cœur te tourner vers Jésus-Christ. Ma prière pour toi, si tu as toujours été dans le milieu chrétien, mais ce que tu en comprends, ce que tu en saisis, c'est un système qui a de l'air bien beau, mais insupportable. C'est que tu réalises que Jésus, c'est une personne, c'est pas une histoire, c'est une personne qui veut t'accueillir, qui veut produire une vie nouvelle en toi. On va parler de ça la semaine prochaine ensemble. On entre dans un nouveau règne qui est celui de l'Esprit, non pas celui de la loi. On va parler de ça ensemble. Comment cette vie-là commence à naître en nous. Et dans mon cœur, bien que souvent, je me sens condamné, il y a une puissance nouvelle qui est en moi. Pour vraiment ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Ma prière pour toi, si tu es chrétien de longue date, puis les gens qui sont autour de toi, s'ils pouvaient te dire vraiment comment est-ce qu'ils te voient, il dirait, toi, je te vois comme quelqu'un qui a toutes sortes de contraintes, toutes sortes de lois. Toi, je te vois comme quelqu'un qui juge beaucoup les gens autour de toi, mais je sais que tu es honnête, tu te juges beaucoup aussi toi-même, mais je te vois comme quelqu'un qui porte de lourds fardeaux. Parce que ça a de l'air tough, ton christianisme, mon homme. Ça a de l'air tough être chrétien. Ça a de l'air d'être une grosse, grosse job, bien difficile à faire. Probablement que quotidiennement, ton rapport à Dieu, comment tu t'approches de Dieu, c'est par la loi, c'est pas par la personne de Christ. Ma prière, c'est que tu lises les Écritures, tu lises la loi, que tu découvres dans la loi comment elle te parle de Christ, de sa perfection à lui, et qu'encore une fois, l'Esprit te prêche l'Évangile, encore une fois, pour que tu suives non pas la loi de Dieu, mais que tu suives Jésus-Christ, parce que c'est à lui qu'on appartient en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta sainte présence, Seigneur. Lorsque je lis ta loi, Seigneur, sans considérer ta grâce, ta présence est terrifiante. Parce qu'elle porte toutes sortes de jugements sur moi, Seigneur. Tu es saint, tu es parfait, Seigneur. Et en moi, il y a cette nature pécheresse qui est là, cette chair qui parle de péché, de convoitise, de lutte, de paresse, d'égoïsme, de petitesse. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que j'ai connu Jésus-Christ. Et mon rapport à toi, ô Dieu, à présent, ce n'est pas un rapport à la loi. C'est une relation avec mon Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens nous révéler ta personne. Viens nous révéler ta grâce, Seigneur. Viens nous révéler ta sainteté, Seigneur, et viens la produire en nous. Conduis-nous par ton esprit à offrir nos membres comme esclaves de la justice maintenant, Seigneur, joyeusement, heureusement, parce qu'on sait que nous sommes accueillis, Seigneur, en vertu de ton œuvre à toi, non pas de la nôtre, Seigneur. Merci pour cette grâce et dans ta bonté que cette grâce produise en nous, Seigneur, de bons fruits à la gloire de Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.